maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse. Maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous. Plongeons, oh comme ils sont bons. Plongeons dans l'ambiance égyptienne de Bruno Catala, car comme tout le monde le sait, Bruno a un ancêtre égyptien.
Voilà.
Voilà. Bonjour Bruno.
Bonjour. Bonjour.
J'adore prendre les gens à contre-pied.
Non mais c'est-à-dire que j'aurais bien parlé en hiéroglyphe, mais c'est plus visuel que sonore.
Ouais, c'est pas radiophonique, effectivement. Alors là, on est sur Sobek, qui est sorti il y a très peu de temps, qui est sorti chez Gameworks. Donc le thème du jeu, c'est quoi ?
Le thème du jeu, c'est l'Égypte antique. Il y a une pyramide qui est en train de se construire pas trop loin, etc., etc. Donc il y a des marchandises qui arrivent le long du Nil. Il y a toute une économie parallèle qui s'est mise en place à cet endroit-là. Et nous, en fait, on est des marchands. On va récupérer des marchandises qui arrivent par l'eau le long du Nil pour pouvoir les revendre au meilleur prix et en fait se faire un maximum de pognon. Quoi.
Voilà. Alors ça c'est la vue globale. Dans la boîte on a un petit plateau sur lequel on va aligner les cartes et on a une piste de score qui ressemble un peu à une piste de parcours, mais ce n'est pas un parcours.
Non, exactement, c'est vraiment une piste de score, tout à fait.
Alors la mécanique est assez intéressante puisque on va avoir trois actions à chaque fois. On va pouvoir prendre des cartes, déposer un lot ou déposer un personnage.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a une action à faire uniquement par tour, à choisir parmi trois. Et on ne fait pas trois actions sur un même tour. Ouais. Les actions sont hyper simples. C'est effectivement soit je prends une carte, mais par contre, quand je prends une carte, il y a une petite contrainte, c'est que soit je prends la première carte de la file, auquel cas ben, tout va bien, soit je prends la deuxième, la troisième ou la quatrième, mais par contre, toutes les cartes que j'aurais survolées, en fait, entre guillemets, avant de prendre le lot qui m'était, que je souhaite, ben, ça matérialise le fait que j'ai payé une sorte de backchiche pour pas prendre ce qui m'était destiné. Et ces cartes-là que je n'ai pas prises, en fin de compte, que j'ai évitées, je les stocke sous une petite plaquette. Et ça va, c'est le nombre de cartes sous cette plaquette va représenter mon niveau de corruption. Et à la fin de la partie, en fait, le joueur le plus corrompu ne marquera à peu près, on verra comment tout à l'heure, mais que la moitié de ses points.
C'est ça.
Et donc, en fait, Sobek, en fait, c'est un jeu qui joue sur la tentation. C'est-à-dire que si tu veux faire un maximum de points, il va falloir que tu ailles chercher les cartes les plus rentables. Et pour chercher les cartes les plus rentables, il va falloir te corrompre. Et donc, si tu es le plus corrompu, tu marques que la moitié des points. Et donc, aussi, il y a des personnages spéciaux qui arrivent face cachée, donc on ne sait pas vraiment lesquels on prend, mais qui ont des pouvoirs quand même assez puissants. Et là, c'est pareil, c'est si tu veux les prendre, avant les autres, il va certainement falloir te corrompre, etc. Et donc, on joue sur la tentation. Donc la deuxième action possible, c'est de poser une série. Pour poser une série, il faut avoir au moins trois cartes de même nature, de même, par exemple trois ivoires, enfin, etc. Et là aussi, on joue sur la tentation, parce que les cinq premiers qui vont poser une série, ils vont accéder à des jetons d'événements qui sont puissants. Et ils auront le choix parmi ces jetons-là, alors que ceux qui poseront plus tard, ils n'auront pas le choix. Par contre, poser plus tard va t'amener à faire plus de points. Parce que en fait, au niveau des points de victoire, on va multiplier le nombre de cartes d'une série par le nombre de scarabées dorés qui sont imprimés dessus, si tu veux. Et donc, du coup, forcément, comme il y a un facteur multiplicateur, plus j'ai des cartes en main, plus je pose une série importante, plus je marque des points.
Oui.
Mais en même temps, plus je pose tôt dans la partie, plus j'accède au jeton événement et plus j'ai du pouvoir sur du contrôle, etc. Donc, plein de petits choix sur une règle qui est vraiment hyper simple parce qu'on peut apprendre le jeu en 3 minutes. Et c'est assez tendu quand même. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Quoi. Ouais.
J'espère que tu es.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis ça, c'est pas, je suis pas en train de vendre ma sauce, ouais. Etc. C'est que quand je dis j'aime beaucoup, c'est quand on est auteur, on fait des jeux, et puis après, on est toujours content de ce qu'on fait au moment où on le fait. Puis après, il y a certains jeux sur lesquels le plaisir de jeu s'estompe avec la durée. Voilà. Et Sobek, en fait, pas du tout. C'est-à-dire, plus j'y joue, plus j'ai envie d'y jouer. Donc, je suis vraiment là-dedans. Quoi.
C'est, y a une question qu'on se pose vraiment en y jouant la première fois, c'est mais comment est-ce que cette mécanique-là est née ? On n'est pas du tout dans une logique... Bon, c'est un jeu de cartes avec un petit plateau. On n'a pas des logiques de dire « Ah, je vais aller voir les cartes qu'il y a chez mon voisin. » Voilà, il n'y a pas du tout les mécaniques qu'on peut retrouver dans des jeux, entre guillemets, habituels. Comment sont nés ces choix ?
Bah, en fait, si tu veux... J'ai fait il y a quelques années avec Ludovic Maublanc un jeu qui s'appelle...
C'est qui ça ?
Je ne sais pas, je ne connais pas cette personne. Mais j'ai fait un jeu qui s'appelait Cléopâtre, la société des architectes. Donc c'était déjà un jeu sur lequel il y avait un mécanisme de corruption. Et très honnêtement, j'ai été assez déçu de l'accueil qui a été réservé à ce jeu-là, si tu veux. Pour différentes raisons, le jeu est passé pas inaperçu, puisqu'on en a quand même vendu 15 000, si tu veux. Mais non, parce que chez Days of Wonder, avec le matériel qu'il y avait, etc., etc., il aurait pu avoir un autre succès. Et donc, cette mécanique, il y avait déjà à l'intérieur une mécanique de corruption qui fonctionnait différemment. Et un des reproches qui a été fait à, comment dire, à Cléopâtre, c'est que c'était un gros jeu, une grosse boîte, pour en fait ce que certains ont assimilé à uniquement un jeu de cartes. Et du coup, à un moment donné, ça m'a travaillé de me dire, mais en fait, si je faisais un jeu de cartes qui soit basé uniquement sur le principe de corruption, en fait. Et l'idée première, ça a été de retravailler pas Cléopâtre, parce que non.
Elle était déjà bien jolie, ça suffit.
Mais ça a été de retravailler simplement un mécanisme de petits choix taquins sur je me corromps pas, et je fais un maximum de points ou pas. Ouais. Voilà. Et c'est parti là-dessus, en fait. Okay.
Et le thème égyptien était présent dès le début, alors ?
Alors, absolument pas.
D'accord.
J'aime bien poser des questions.
Voilà, c'est ça. Et alors ça, c'est un jeu qui est passé par un nombre d'étapes au niveau de la thématique qui est assez, assez hallucinant. Au début, c'était pas du tout ça. Moi, je voulais faire un jeu super grand public. Et l'idée, c'était quoi ? C'était qu'on était des souris qui allaient bouffer des trucs dans le frigo. Mm-hmm. Enfin, sur la table, avant le frigo, il y avait un certain nombre de denrées qui étaient là... à bouffer, et effectivement, quand on les ramenait dans notre petite tanière, quand on les regroupait par nature, etc., on pouvait marquer un maximum de points. Ouais. Et il fallait faire gaffe au chat. Et en fait, celui qui était le plus corrompu, alors ça ne s'appelait pas corruption, hein. Ouais. C'était on alertait le chat avec des grelots, enfin, etc., ouais. etc. Celui qui avait été le moins discret, en fait, ben, il se faisait bouffer par le chat.
D'accord.
Donc au début, c'était ça. Et donc c'est un projet que j'ai depuis vraiment peut-être 3 ou 4 ans qui a été construit doucement parce que ça marchait mais c'était pas tout à fait ça. Puis alors après à un moment donné j'ai fini par avoir le déclic sur le mécanisme qui faisait que ça allait vraiment bien. À ce moment-là, Gameworks chez qui j'étais m'a dit Sébastien Pochon m'a dit ouais ça serait cool, j'aimerais bien le faire après Jaipur. Ouais, j'ai dit banco, voilà, hein, c'est forcément. Surtout quand tu connais la qualité de leur édition, parce que ça, on pourra peut-être en toucher deux mots. Hein. Et puis à ce moment-là, on a travaillé, donc j'ai travaillé avec eux, parce que c'est des fous furieux hein, chez Gameworks, donc c'est très agréable, justement, d'avoir ce niveau d'implication. Et après, on est parti sur un jeu complètement épuré, dans un premier temps, et qui jouait sur des... on faisait des combinaisons de machines à sous, avec les slots... Donc, pour dire qu'on était encore loin d'Égypte. Et puis finalement... À force d'appeler les cartes qu'on prenait en négatif, entre guillemets, à force de les appeler dans ma tête corruption, parce que l'idée de base c'était corruption, à un moment donné Sébastien m'a dit mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas l'Égypte finalement Et puis d'un seul coup, là à nouveau, c'est devenu évident. C'est d'un seul coup parce que les personnages ont pris une vraie dimension de personnages, on s'identifie, enfin on voit les choses qui se passent et on a un dessin qui est super, qui est un peu Goscinny, on va dire, d'une certaine façon. Et voilà, quoi, on est dans Astérix et Cléopâtre, quoi, c'est vraiment ça.
C'est Mathieu Beaulieu qui a fait aussi Pony Express, il me semble.
C'est ça, exactement.
Donc c'est un illustrateur canadien qui a été...
Québécois,
qui a été repéré sur un blog l'année passée par Philippe Noura, justement, pour faire Pony Express.
C'est ça.
Et effectivement, on est tout de suite dans le thème, avec un thème un peu Goscinny, on est dans le marché d'Astérix et Cléopâtre. Quoi.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et donc, pour continuer avec Gameworks, il y a un truc qui est épatant quand on ouvre la boîte, c'est le thermoformage.
Ah ouais, ça
c'est... Voilà, donc il y a une marque de fabrique qui s'installe chez Gameworks et qui se confirme, c'est phénoménal. Donc il y a un scarabée gravé dans le plastique sous lequel il y a des tuiles, il y a des petits personnages, tout est fait pour pouvoir attraper le jeu correctement. Tu as participé à ce genre de décision-là ou est-ce que c'était vraiment un plaisir de travailler avec eux justement pour le fait de pousser aussi loin le détail ?
Alors, ce qui est super agréable avec Gameworks, c'est que bon, il faut dire aussi qu'on est amis, qu'on se connaît bien, qu'on habite pas loin, qu'on discute quasiment quotidiennement par Skype interposé. Ouais. Et donc, toutes les décisions ont été faites de façon collégiale. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant le processus d'édition, il ne s'est pas passé quasiment une journée sans qu'on passe une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure avec Sébastien ou Malcolm par Skype interposé, à discuter, à se re-rencontrer, à rejouer, etc. Donc eux, ils ont eu un input énorme en ce qui concerne la mécanique du jeu. Ouais. Voilà, donc ils m'ont poussé dans mes retranchements, en fin de compte, à re-réfléchir des trucs pour que ça soit le plus ergonomique, le plus facile, etc., etc. Donc ils se sont impliqués très fort à ce niveau-là, mais en contrepartie, ils m'ont laissé aussi m'impliquer très fort au niveau de la réalisation. C'est-à-dire que, voilà. Par contre, il faut aussi... c'est complètement eux qui ont fait le design. Hein, ouais. C'est... toutes les discussions, toutes les propositions ont été validées. Moi, j'ai pu donner mes idées, etc., etc. Mais par exemple, le thermo, bon, je savais qu'il allait avoir un thermo, ils m'ont montré les évolutions, etc. Mais c'est eux qui l'ont construit de A à Z. C'est pas mon idée de faire le thermo comme ça.
Ouais.
justement, tu dis, bon, il y a eu des années de développement sur ce, et des heures et des heures d'interaction avec eux.
Ouais.
Un petit exemple, peut-être deux anecdotes sur des choses qui ont disparu du jeu suite à ces discussions-là.
Alors, des choses qui ont disparu du jeu, tiens, ça, c'est une bonne question, ça.
Chouette.
Ouais, non, mais oui, bah si, par exemple, au début, sur mon prototype, plutôt des choses qui ont changé.
Ouais.
Sur mon prototype, en fait, on avait simplement une file de 4 cartes. Et quand c'était à ton tour, tu prenais une carte parmi les 4. Et puis on recomplétait la file, etc. Et puis ça, ça marchait très bien, c'était équitable d'une certaine façon, puisque chacun se retrouvait face à sa propre file de 4 cartes. Mais Sébastien, à juste titre, m'a fait la remarque que ça faisait énormément de manipulation. Et en fait, c'est toujours chiant dans un jeu si tu es toujours en train de manipuler le matériel, la mise en place, etc., etc. Et c'est lui qui m'a amené à me proposer « mais est-ce qu'on pourrait pas faire une file plus grande ?» et donc, du coup, c'est là qu'on est passé sur une file de 9 cartes qui, en plus, a le mérite de te donner un peu d'élan. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois les cartes qui vont arriver et du coup, ta décision de corruption, elle est encore plus taquine puisque, d'une certaine façon, tu vas plus pouvoir tenter d'enquiquiner le joueur à ta gauche pour prendre les bonnes cartes, ou etc., etc. Donc là, ça a été un double plus, puisque ça a été un plus d'une part pour la mise en place et pour le setup du jeu, etc. Et d'autre part, ça a amené un petit peu plus de taquinerie au niveau tactique. Quoi.
Ouais, ok, voilà, hein, je pense qu'on y est.
Ouais.
Hein, on a
puis,
tout dit.
Ouais, une autre chose qui a beaucoup bougé, c'est les personnages aussi. Ça, c'est... on a eu différentes versions. Au début, c'était une pile séparée à laquelle on accédait dans certaines conditions. Ensuite, ça a été mixé sur les cartes, ce qui est le cas aujourd'hui. Et ensuite, seulement, elles sont arrivées face cachée.
Voilà, ouais.
Voilà. Et ça, c'est vraiment important, ça. Ouais, c'est
bien, merci Bruno. Donc là, on est au salon de Essen 2010. Ça, ce sont les sorties. Il y a aussi Mr. Jack Pocket qui a déjà été traité dans un autre podcast avec l'autre gars avec qui tu l'as fait. Qu'est-ce qui est prévu pour 2011? Je veux dire, est-ce qu'il y a déjà des choses dont on peut parler?
Oui, on peut évoquer certaines choses. Donc, moi, j'ai trois jeux qui sont dans le circuit, en fait.
Ouais.
Avec Ludovic Maublanc, toujours cette personne que je ne connais pas, je tiens à le répéter. Nous avons un petit jeu de cartes sur la thématique de l'Arche de Noé qui devrait sortir chez Asgard l'an prochain, dans leur nouvelle gamme des boîtes métal. Là, voilà. Donc par contre, quand aucune idée, là je ne sais pas du tout. Mais courant 2011, a priori. Hein. Sinon, j'ai un jeu avec un jeune auteur avec plein de cheveux derrière.
Ah oui.
Ah, voilà, qui fait des choses
merveilleuses
et cette fois merveilleuses même. Donc voilà, non.
Ça on va voir.
J'ai un jeu avec lui qui est prévu chez Hurricane au printemps prochain,
oui.
qui est un jeu de reconnaissance tactile, c'est-à-dire qu'en fait on va chercher des pièces de puzzle dans un sac,
oui,
à l'aveugle, en devant les reconnaître soit par leur forme, soit par leur texture, puisqu'au dos des puzzles il y a une texture particulière.
Oui.
Donc voilà, donc c'est dans un univers bon, que je peux pas pour l'instant dévoiler parce que sinon mon éditeur va me tuer, mais voilà. Actuellement avec Antoine encore, on a un autre projet que je sais pas si t'as vu sur internet. En fait, il y a des deux jeunes qui se sont lancés sur un projet d'édition participative.
My Witty Games.
My Witty Games. Et donc avec Antoine, on a un jeu qui est chez eux, qui s'appelle
Wikipong,
qui est un jeu de ping-pong verbal, qui est un party game vraiment drôle, rigolo, rapide, etc. Et si on a suffisamment de souscriptions, enfin c'est pas des souscriptions, mais d'édinotes comme ils appellent, qui investissent dans le projet, alors on verra, ce jeu verra le jour l'année prochaine.
Ouais, c'est ça, donc le principe c'est on met de l'argent sur la table, on dit je participe à l'édition, puis après ils recevront une boîte. Quoi.
Non mais même plus que ça, c'est-à-dire que selon l'argent que tu mets, tu deviens co-éditeur.
Voilà, c'est ça.
C'est ceux qui mettent 15 euros, ben en fait ils reçoivent le jeu avec un goodies, machin truc, etc., etc. Donc en fait ça revient à une souscription.
Ouais.
Mais à partir du moment où tu mets par exemple 45 euros, voire plus, à ce moment-là tu as des tickets d'éditeur et qui te donnent un retour sur investissement sur une base qu'il faut aller voir sur le site.
Ouais.
Selon toi, c'est dans l'air du temps ce genre de démarche-là? C'est logique que ça vienne maintenant?
De toute façon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus en plus de gens qui ont envie de se lancer dans l'édition et beaucoup par frustration d'ailleurs de ne pas trouver une ouverture chez des éditeurs déjà installés. Donc voilà, après, il y a aussi... ça, moi, je crois que ça correspond à un phénomène de société, parce qu'on le voit pour la musique, on le voit pour le livre, on le voit pour la BD. Pourquoi pas pour le jeu ? Alors pour le jeu, il y a des écueils hein, pour que ça fonctionne. C'est que si on parle d'édition comme ça, collaborative, sur de la musique ou sur du livre, on peut aller écouter des extraits musicaux, on peut aller lire des extraits de livres ou de bandes dessinées. Pour transmettre l'idée de ce que c'est qu'un jeu de société au travers de fiches internet, ou voilà, c'est moins facile. Moi, j'ai été séduit par le projet, en fait, et puis par la sympathie de l'équipe. Après, moi, je souhaite que ça marche, évidemment. Maintenant, te dire où est-ce que ça va aller, j'en sais strictement rien. Et puis, de toute façon, ce qui m'intéressait, c'était d'être dans les premiers sur cette aventure. C'est-à-dire que si elle doit marcher maintenant et à court terme. Voilà, c'est ça. Et
donc ça, c'est fait à travers un site internet, donc il suffit de chercher MyWitty Games.
Exactement.
Et on s'inscrit on devient Edinode.
Voilà, chacun fait comme il l'entend. Hein, je veux dire, c'est, ouais,
mais prenez-en plein. Oui, plein.
Merci Bruno Catala, à très bientôt.
À bientôt, ouais.
Ce podcast, alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.